Turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 12. 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Ces paroles. Petits enfants, je vous écris, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et notre sujet ce matin est le suivant, une œuvre intérieure profonde. Ces versets qui sont là devant nous constituent un passage plutôt rare de l'apôtre Jean. Il mentionne trois différents groupes de personnes et il les mentionne deux fois chacun. Il semble qu'il y a là des répétitions qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas clair si chaque groupe de personnes est un groupe en termes figurés, père, jeunes gens, petits enfants, ou est-ce que ce sont des métaphores pour chacun d'entre nous dans nos différentes situations, ou est-ce qu'il s'adresse littéralement à trois différents groupes selon l'âge? C'est un passage qui est un peu énigmatique et ceci est délibéré pour que nous puissions réfléchir. L'apôtre Jean, en formant ici ses paroles de cette manière-là dans ses versets, il fait un peu l'équivalent de ce que Christ dit quand il dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et quand il introduit un thème particulier qu'il dit « en vérité, je vous le dis. » De même, il attire notre attention d'une manière toute particulière. C'est un passage pour nous faire réfléchir. C'est pour cela que c'est un peu énigmatique. Peut-être que vous allez le lire de manière superficielle et penser « Oh, c'est clair !» Et vous allez continuer. Quelques points très simples. Mais ceci est écrit de manière à ce que ce texte nous appelle à réfléchir, à penser. Et nous allons essayer de faire cela, d'analyser ce passage, sans nous précipiter vers le verset 15. Et ces versets nous amènent vers le verset 15. « N'aimez point le monde, n'aimez point le monde. » C'est là l'appel important. Mais avant d'en arriver là, ces paroles d'introduction pour attirer notre attention, pour que nous puissions réfléchir. Et mon premier point est le suivant. J'espère que mes points ce matin vont refléter les différentes parties de ce passage. J'espère. Mais mon premier point sera une œuvre intérieure profonde, une repentance profonde. Au verset 12, « Petits enfants, je vous écris, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Je crois, avec la plupart des anciens commentateurs et écrivains, à partir de Jean Calvin, que la première référence de l'apôtre Jean est une métaphore. Cette métaphore ne se réfère pas réellement à des petits-enfants, mais c'est comme au début du chapitre, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Et c'est là un terme plein d'affection, un terme paternel. L'apôtre Jean, qui veut montrer qu'il parle plein d'amour, plein d'affection, en prenant soin comme un père de ses enfants, quand il leur parle, même s'il dit des choses qui sont un défi pour nous. Et je pense que c'est la même chose au verset 12. Petits enfants, c'est là une métaphore pour chacun d'entre nous. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Le deuxième petits enfants au verset 14 est peut-être plus probablement appliqué à des jeunes enfants. Parce que dans le grec, c'est différent. L'apôtre Jean utilise un terme grec différent au verset 14, « petits-enfants ». Ces deux termes en grec ne sont pas différents dans leur signification, mais le choix d'un terme différent montre probablement qu'au verset 14, il parle différemment, littéralement, et non pas comme une métaphore. Mais ici au verset 12, « petits-enfants, je vous écris ». Je pense que ça c'est pour chacun d'entre nous. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Parfois, les gens disent qu'il n'y a pas de repentance dans l'évangile de Jean. Là, nous considérons la première épître de Jean. Mais bien sûr qu'il y a la repentance. Il y a beaucoup de mentions de la repentance dans l'évangile de Jean. Mais certaines personnes pensent que si on souligne trop la repentance, c'est quelque chose de négatif et que nous devrions souligner la foi et croire en Christ. Et ceci est important. Et ainsi, certaines personnes sont erronées en pensant qu'il n'y a pas de repentance dans l'évangile de Jean. Je ne vais pas parler de l'évangile de Jean à présent, mais le même auteur, le même apôtre, quand il écrit sa première épître, il ne peut pas s'empêcher de poser le fondement du pardon. Et ceci sous-entend la repentance, et c'est déjà ce qu'il a fait au chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » C'est presque comme si Jean, mais ce n'est pas le cas, a entendu dire que l'évangile de Jean ne mentionne pas vraiment la repentance et qu'il faut le mentionner ici dans la première épître de Jean, mais ce n'est pas le cas. « Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Sans la repentance, sans le pardon, la repentance pour la vie, il n'y a pas de salut, pas de vie nouvelle, pas d'œuvre intérieure profonde. Ceci est essentiel. Et c'est à cause de son nom, parce que Dieu le Père voit Dieu le Fils qui a porté la condamnation du péché pour tous ses enfants qui sont rachetés. Et pour sa gloire, à cause de son nom, il pardonne, parce qu'il a payé le prix. Mais souvent, de nos jours, la repentance n'est pas prêchée. Même parfois, dans des églises évangéliques, et souvent vous entendez les gens dire « Oh, dans l'église dans laquelle j'étais, jamais on nous a prêché par rapport à la repentance. » Oh oui, ils croyaient dans le sang et ils chantaient les cantiques qui parlent du sang et de la mort expiatoire de Christ, mais ils n'ont pas spécifiquement appelé les gens à se repentir de leurs péchés. Il doit y avoir la repentance pour qu'il y ait le salut. Vous entendez toutes sortes de phrases utilisées par les évangélistes qui, au lieu d'appeler les gens à la repentance, ils disent « Mettez votre main dans la main de Jésus, il va vous aider, il va vous diriger », toutes sortes de choses de ce genre. Et la foi et la repentance dans la mort expiatoire de Christ, mais ceci est essentiel, chers amis, la repentance. N'allons pas passer beaucoup de temps sur cela ce matin. Petits enfants, je vous écris, c'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous caractérisés par cela. L'une des choses par rapport au salut, c'est que ce n'est pas un problème pour nous si nous sommes appelés petits-enfants. Nous réalisons que nous avons beaucoup en commun. D'une manière plus mature, si vous voulez, plus mature et adulte, nous avons beaucoup de choses en commun avec des petits-enfants. Les enfants savent qu'ils sont enfants, ils savent qu'ils ne sont pas complets, ils savent qu'ils ne sont pas adultes, ils sont bien conscients de cela. Quand vous venez à Christ, l'œuvre en vous est si profonde que vous aimez être appelé un enfant spirituellement. Oh, je sais que je ne suis pas complet, que je ne suis pas un adulte, que je suis sur mon chemin comme un pèlerin et je dois continuer et aspirer à la sanctification par l'aide de Dieu pour faire mieux et pour appliquer dans ma vie ces vertus chrétiennes. Ces caractéristiques de plus en plus, avant d'être chrétiens, nous sommes orgueilleux et nous n'aimons pas qu'on nous appelle petits-enfants. Mais quand nous sommes convertis, ce n'est pas un problème parce que nous savons que c'est vrai, nous comprenons ces choses. Les enfants vont vers l'avant et ils grandissent et ils aspirent à quelque chose. Et de même pour nous, dans un sens mature, nous n'avons pas de problème quand on nous appelle petits-enfants. Nous suivons des exemples, nous reconnaissons que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Christ. Nous savons que nous sommes vulnérables devant la tentation et que nous tendons à errer. C'est une chose glorieuse que d'être un petit enfant, d'être conscient de ces choses. Et le présent n'est pas tout pour nous. Les circonstances présentes, la carrière présente, votre position, votre maison, tout ce qui est présent, Ceci n'est pas ce qui est important pour vous, c'est le futur qui est important, l'avenir. Vous avez la mentalité d'un enfant dans un certain sens, parce que nous avons un but céleste, un but futur, et nous sommes ici pour parler du Seigneur. Réfléchissez à cela, chers amis. Est-ce que nous sommes heureux d'être appelés petits-enfants? Et dans un sens mature, nous avons ces caractéristiques d'enfants. Petits-enfants, je vous écris, spirituellement parlant, c'est là ce que nous sommes. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. L'œuvre profonde en nous. Ensuite, un deuxième point, chers amis, alors que nous en arrivons au verset 13, ici, Jean nous donne une perspective profonde et j'espère que vous allez comprendre que ceci reflète les paroles que nous lisons. « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Celui qui est dès le commencement, c'est bien sûr Christ qui a été mentionné dans le premier verset de cette épître, dans ces termes-là. Christ incarné, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, etc. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et nous sommes appelés à réfléchir à ce passage énigmatique. Que pensez-vous? Que veut dire l'apôtre Jean ici? Père. Il sélectionne les pères, bien sûr, tous ceux qui sont plus âgés, des chrétiens plus âgés, chrétiens depuis longtemps, ou des chrétiens matures, si ceci existe, des mères également. Mais il dit « père ». Quelle est l'image ici d'un père? L'image évidente, c'est le père de famille, quelqu'un qui est responsable de sa famille, qui a les rênes de sa famille, qui est le chef de famille, qui dirige, qui enseigne. Mais qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire ici quand il dit en particulier « Père, je vous écris ». Est-ce que vous pensez que vous êtes le chef, que vous êtes le maître, que vous êtes celui qui mène, mais vous êtes un père chrétien parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et alors que vous réfléchissez, vous réalisez ce qu'il dit. Vous n'êtes plus simplement un père dans ce monde. En menant votre famille pour survivre, pour prospérer, pour grandir dans ce monde matériel, vous êtes bien au-dessus. C'est comme s'il y avait un autre niveau, parce que vous l'avez connu, lui, Christ qui a préexisté, le Fils de Dieu éternel. Vous avez été élevé à un autre niveau, une atmosphère supérieure, si vous voulez. Ceci parle de perspective. Vous n'êtes pas simplement un père terrestre. Vous avez une perspective spirituelle. Vous avez été amené en communion avec Christ. Vous avez une nouvelle compréhension, une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de voir toute chose. Père, je vous écris. Parce que vous n'êtes plus un père ordinaire, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, Christ, qui a existé avant que le monde ne commence. Et vous voyez ces choses de ce point de vue-là. C'est une idée merveilleuse, une perspective merveilleuse. Ainsi, votre rôle en tant que père a changé à présent. Vous n'êtes pas seulement un père, mais vous êtes quelqu'un qui proclame. Non seulement vous enseignez vos enfants pour qu'ils vivent dans ce monde, mais également pour connaître le Seigneur. Vous avez un objectif bien plus élevé pour que Christ soit connu tout autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille. Vous connaissez quelqu'un qui est bien plus grand que vous et vous êtes soumis à lui. Vous devez lui obéir. Il vous dirige, il vous commande. Quelle transformation profonde! Vous n'êtes plus le chef, le maître, le seul. Vous ne pouvez plus vous mettre en avant en disant « J'ai de l'expérience, je sais, on ne va pas me contredire, je peux être fier de moi-même, fier de ce que je fais. » Non, vous avez les mêmes responsabilités, mais vous êtes soumis à quelqu'un, vous le servez, vous l'avez connu et vous voyez les choses d'un point de vue spirituel. C'est là quelque chose de très profond, une œuvre intérieure en vous si profonde. Ainsi, nous ne précipitons pas les choses quand nous lisons ces versets. Père, je vous écris parce que vous connaissez le Seigneur. Non, arrêtez-vous, réfléchissez. Ceci parle d'une perspective profonde. Je suis un père, une mère, ou un chrétien âgé, ou un chrétien depuis longtemps. Par sa force, par sa capacité, je dois continuer malgré les difficultés. Je ne peux pas simplement pleurer. Je dois soutenir les autres et aider les autres. En même temps que d'être fort, je dois être tendre, plein d'affection et d'amour pour les autres. C'est un commandement de Dieu pour moi. Je dois être près des plus jeunes et les aider. Je dois être responsable, je suis père. Mais j'ai également une nouvelle dimension. Pas seulement ce monde matériel, vous avez un privilège extraordinaire. Père, je vous écris parce que vous avez connu, quel privilège, vous avez connu celui qui est dès le commencement, le Fils de Dieu préexistant, éternel, qui est dès le commencement. Et je vais vous suggérer un troisième point. Ceci parle d'une victoire profonde, d'une victoire intérieure. La deuxième moitié du verset 13, un autre point. Une victoire profonde. Jeunes gens, je vous écris. Ceci inclut les jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, peut-être la quarantaine ou plus jeunes. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oh, réfléchissons un peu. Jeunes gens, plein de curiosité. Une jeune personne qui aspire à essayer toutes sortes de choses, tout désir. Les jeunes, de manière naturelle, la plupart d'entre eux sont optimistes. Les jeunes sont absorbés par les choses matérielles de ce monde si facilement, avec toute leur énergie qui va dans ce monde. Et le malin encourage ceci et les amène à ceci pour les amener dans le péché et l'idolâtrie, l'amour de ce monde et des choses de ce monde, et une préoccupation totale avec les choses de ce monde, méprisant toutes sortes de choses spirituelles ou divines. Et le malin nous amène dans la captivité, à être captif de la chair et du temps, le monde, le diable et la chair. Et il réussit à capturer les forts et les faibles, les jeunes intellectuels et également ceux qui sont jeunes et athlétiques, qui ont de la force physique plutôt qu'intellectuelle. Il les rend tous captifs, mais par la grâce, par le salut, les jeunes sont délivrés. Jeunes gens, je vous écris. Vous êtes entièrement consacrés à ce monde curieux, mais vous avez vaincu le malin. Bien sûr, ce n'est pas eux qui ont vaincu le malin, mais c'est Christ qui a vaincu. Le Saint-Esprit les a régénérés et leur a donné la victoire sur Satan. Ainsi, cette chose extraordinaire et merveilleuse, ils sont libres par rapport au monde. Ils ne sont plus captifs, ils ne sont plus fascinés par les choses de ce monde. Le Saint-Esprit leur a montré Christ, il a transformé leur nature même. Et Jean écrit, vous avez vaincu le malin. Mais nous savons que c'est par la capacité du Saint-Esprit. Vaincu le malin. Et Jean répète ceci au chapitre 5, le malin. Et il est furieux. Il a été vaincu. Il n'a plus la suprématie et la domination dans leur vie. Tout ce qu'ils suggèrent à leurs oreilles pour amener cette personne au péché, cette personne met à mort le péché et résiste au diable et résiste à la tentation. Et le diable n'aime pas cela. Le diable peut faire tomber les forts et les plus faibles. Et à présent, tentation après tentation, le jeune homme et la jeune femme et ces gens de la quarantaine, par la grâce à présent, font fuir le diable, il ne peut plus résister. Si Christ est avec eux, et il est furieux, et il va essayer à nouveau, et toujours à nouveau, et si vous êtes jeune, votre victoire même vous rend plus susceptible. Parce que l'ennemi est l'ennemi de vos âmes, il est plus furieux et prêt à attaquer à nouveau. Ne soyez pas en paix, ne soyez pas à l'aise, mais veillez. Parce qu'il va essayer de vous amener des suggestions pour mentir ou pour être fier de vous-même. Vous devez résister à ces choses. À chaque attaque, il va essayer de suggérer des choses pour vous rendre plein de convoitises et envieux, ou peut-être des choses impures, pour regarder des images que vous ne devriez pas regarder. Et il va œuvrer en vous. Jeune homme, jeune femme, jeune gens, vous avez rendu le diable furieux par la grâce, et il va essayer de vous attaquer pour vous faire tomber. Et si pendant un moment, vous ne veillez pas, il va essayer de vous amener à l'égoïsme, ou vous amener à être silencieux par rapport à votre Seigneur et vous ne témoignez plus pour lui, vous ne parlez plus, vous allez être assailli par la tentation. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est là le cas. Vous avez vaincu, c'est une grande œuvre intérieure, mais ceci amène à un grand combat. Réfléchissez à cela, parce que ceci doit nous amener à réfléchir. C'est une victoire profonde, mais nous devons veiller. Et j'en arrive à un autre point, alors que nous continuons. Verset 14, « Petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. » Cette fois-ci, en grec, c'est un terme différent pour « petits enfants » qui nous montre qu'à présent, l'apôtre Jean veut probablement parler aux petits enfants. Ce n'est plus une métaphore comme auparavant. Petits enfants, je vous écris, parce que vous avez connu le Père. Petits enfants, c'est une chose extraordinaire pour des petits enfants qui connaissent le Seigneur. Ils n'ont pas simplement entendu parler de lui, ils ne reconnaissent pas simplement son existence, ils ne croient pas simplement en lui ou en son existence, mais parce qu'ils ont été sauvés, ils le connaissent. Ils le prient, ils ont une conscience qui est tendre. Ils viennent régulièrement à l'école du dimanche et à l'église et ils lisent la Bible dans le cercle familial. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré tout ce à quoi ils doivent faire face à l'école, ils continuent. Peut-être vous dites, « Oh, ma petite fille, mon petit garçon !» est un chrétien, pas une forte personnalité. Comment est-ce qu'il va survivre? Comment est-ce qu'il va y arriver? Mais il y arrive, il continue, il persiste, il persévère, sa conscience attendrit. Et là, il prie le Père et il croit en lui. Quel signe extraordinaire! Il y a cette sécurité, cette assurance profonde. Il y a eu cette œuvre profonde, cette œuvre intérieure, il y a cette assurance, sécurité. Il continue, il persévère. Vous pensez que vous allez devoir tenir la main de cet enfant partout, mais non, ce n'est pas le cas. Il persévère et il est fidèle au Père qu'il connaît. Ceci nous montre la grande sécurité de la vraie conversion. Petits enfants, je vous écris, parce que vous avez connu le Père. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Ensuite, je veux continuer avec un cinquième point, verset 14. C'est la même chose qui a été dite au Père auparavant, mais plus riche. Cette élévation à une nouvelle responsabilité, et ceci avec la conversion. Vous avez une responsabilité spirituelle à présent, pas seulement sur terre. Père, je vous ai écrit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Pourquoi cette répétition? Ou nous disons à Jean, « Oh Jean, c'est exactement ce que tu as dit au Père auparavant. Pourquoi est-ce que tu répètes cela ?» Ceci nous amène à réfléchir, c'est très important. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Une partie de ce raisonnement, c'est le verset 15, cette application « N'aimez point le monde ». Et nous en arrivons plus près de cela, nous n'allons pas l'étudier aujourd'hui, mais c'est là ce que nous avons à l'esprit. C'est comme si la répétition était nécessaire à présent. « Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, qui a préexisté le Fils éternel de Dieu. Vous avez été élevé, vous êtes dans un nouveau monde de connaissances, vous êtes dirigé par lui. Vous n'êtes plus simplement un Père terrestre. Et je dois vous répéter cela, et ceci vous prépare à ce verset « N'aimez point le monde ». Vous avez été élevé au-dessus du monde. Votre esprit, votre intelligence à présent sont dans les choses célestes et vous respirez l'air, la connaissance du ciel, vous voyez des choses de ce point de vue-là. Ceci, c'est pour vous préparer. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer le monde. Ce n'est pas simplement un commandement arbitraire. Vous avez été préparé pour cela. Vous avez été amené au-dessus des choses terrestres. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous êtes au-dessus des choses simplement terrestres et des ambitions terrestres. Vous êtes appelé à être quelqu'un qui proclame Christ, qui montre le chemin du ciel et qui voit les choses d'un point de vue éternel et céleste. C'est pour cela que j'en répète. Et j'en arrive à un sixième point, un dernier point, ici à la fin du verset 14. « Jeunes gens, je vous ai écrit, parce que vous êtes forts. » J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ceci, d'année en année. « Jeunes gens, je vous ai écrit, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Qu'est-ce qui est particulier par rapport aux jeunes gens, aux jeunes femmes ? Aux gens de la quarantaine, qu'ils soient appelés forts. La première chose que j'aimerais dire, c'est que ceci est contre l'enseignement du Nouveau Testament. Parce que même si nous sommes convertis, nous devons nous voir comme étant faibles et vulnérables. Et c'est là ce que nous sommes tous faibles et nous avons besoin du Seigneur. Et de prier jour après jour et de lire la parole et le Saint-Esprit en nous et une conscience qui est en vie. Et l'Esprit œuvre par la conscience et nous examinons nous-mêmes, nous veillons et nous devons avoir du discernement parce que nous sommes faibles. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire ici quand il semble contredire l'enseignement général du Nouveau Testament ? Et il dit en particulier des jeunes, « Parce que vous êtes forts ». Ce terme en grec traduit par « fort » ici, c'est là sa signification. Mais d'une manière plus spécifique, ceci signifie « zèle ». Ailleurs, quand l'apôtre Jean ou l'apôtre Paul veulent dire que quelque chose est fort, ils utilisent un autre terme. Ceci ne parle pas d'une qualité, d'une force inhérente, mais d'une énergie, d'un dynamisme, d'un zèle. Ou d'une vigueur. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts, vous êtes vigoureux, vous êtes dynamique. C'est une chose merveilleuse que d'être transformé. Cette vigueur, cette énergie, ce dynamisme, auparavant, était utilisé pour une plus grande voiture, une plus grande maison, pour monter dans notre carrière les choses terrestres, la famille, les possessions, les biens, toute votre énergie allait dans ces choses. À présent, vous êtes transformé. La meilleure partie de votre vigueur, de votre énergie, est pour le Seigneur. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que, d'une manière naturelle, vous avez cette énergie, ce dynamisme. Nous ne pouvons pas parler pour tous, mais la chose naturelle, c'est d'avoir ce dynamisme, cette énergie. Il semble que certaines personnes l'ont perdu et ils ont découvert la joie, du confort. Non, je ne parle pas de cela ce matin. Nous parlons de cette énergie naturelle des jeunes. Mais maintenant, il y a une direction. À présent, vous êtes sauvés, vous avez un objectif spirituel. À présent, votre meilleure énergie, c'est pour le Seigneur, pour votre marche spirituelle, pour votre œuvre spirituelle. À présent, votre dynamisme est dirigé également à l'intérieur, dans ce combat contre le péché. À présent, votre dynamisme, ce n'est pas ce que je peux posséder, ce que je peux avoir, ou ce que je peux contrôler, mais ma vie spirituelle, quelle vertu est-ce que je peux exercer? À présent, tout est pour le Seigneur. Il y a des objectifs qui sont bons. Jeunes gens, dit l'apôtre Jean, vous avez cette énergie, ce dynamisme. Oh, nous sommes dans un état si triste quand nous ne sommes pas convertis et toute notre énergie va dans ces choses triviales qui n'ont pas de sens, qui sont terrestres, qui sont temporaires, ces choses qui ne vont pas durer, qui n'ont pas de valeur et même des choses pleines de péchés. Mais à présent, votre dynamisme a un but, une direction. Jeunes gens, je vous ai écrit. Parce que vous êtes forts, vous avez cette vigueur, ce dynamisme, cette énergie, et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est là la vérité qui décide tout dans votre vie. Vous êtes sous son autorité et vous avez vaincu le malin. Comme je l'ai dit auparavant, le malin est à présent furieux. Vous l'avez contredit. Vous l'avez mis de côté tant de fois. Et vous êtes une personne qui est marquée du sceau de Dieu. Ainsi, l'œuvre profonde ici, c'est ce zèle profond que vous avez, qui a été raffiné. Et vous avez un but, une direction de la part du Seigneur. Ce sont là le genre de choses, je suis sûre, que l'apôtre Jean a à l'esprit. Et il veut nous faire réfléchir dans ce passage énigmatique. L'œuvre profonde, l'œuvre intérieure profonde, cette œuvre de repentance. Et nous avons une nouvelle perspective. Nous avons été élevés dans un monde tout nouveau. Nous avons reçu la victoire sur le péché, la sécurité et une vie spirituelle. Et nous avons le zèle, cette œuvre intérieure profonde. Chers amis, ce passage, nous pouvons le lire et le relire. Et nous devons réfléchir. Et il nous touche, il nous affecte, et il nous relève, il nous inspire, il nous exhorte. Et il nous amène à nous consacrer d'une manière plus profonde à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous prépare pour ce verset « N'aimez point le monde ». Et Dieu voulant, nous allons en arriver là bientôt.